Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé,
le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous, 30 minutes pour une longue pérégrination de 30 années que nous vous racontons. C'est celle du voyageur Ibn Battuta dont nous suivons les traces en compagnie de Jordi Savall, un reportage qui a été enregistré à Abu Dhabi qui accueillait Jordi Savall et une pléiade de magnifiques musiciens juste avant le tournant de l'année, une avant-première d'un spectacle qui sera donné à Paris le 11 février.
Ibn Battuta, the traveler of Islam. 1300, beginning of the Ottoman expansion in Anatolia.
Battuta, le voyageur de l'islam, c'est la dernière en date des aventures de Jordi Savall, aventure musicale qui porte un message de fraternité bien nécessaire par les temps qui courent, en compagnie de Hesperion 21, qui conjugue le kanoun turc, la kora malienne, le vali malgache, le doudouk arménien et le rebab, cette langoureuse vielle à archet qu'on entend, pour laquelle Jordi Savall abandonne momentanément sa fameuse viole de gambe. Alors c'est pour nous l'occasion de mettre nos pas dans ceux de ce magnifique voyageur du XIVe siècle et nous allons avoir donc quelques éclaircissements sur ce personnage grâce à l'expertise d'Emmanuel Tixier-Duménil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Ouest-Nanterre et vous êtes une grande spécialiste des géographes d'Al-Andalus et des géographes arabes plus largement, auxquels vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont le dernier en 2014, aux publications de la Sorbonne. Ibn Battuta est pour nous, lecteurs français, le plus célèbre de ces voyageurs. C'est un peu la star de la grande édition qui a paru dans la Pléiade il y a de ça quelques années. Mais avons-nous raison de le mettre tellement en avant, cet Ibn Battuta ?
Oh oui, nous avons certainement raison de le mettre en avant, d'une part par l'ampleur de son voyage, d'autre part pour le récit assez unique qu'il en fait. Ibn Battuta est né en 1304 à Tanger, au Maroc, dans le sultanat mérinide de Fès. Et il part à l'âge de 21 ans faire le très classique pèlerinage à la Mecque, sauf que son voyage va durer plus de 25 ans. Et va le mener aux confins du monde, puisqu'il va, à l'issue de son voyage des lieux saints, partir sur la côte de l'Afrique orientale, et puis parcourir les steppes kazakhs, l'Anatolie, Constantinople, et surtout il va aller en Inde, qui est a priori le but de son voyage.
Mais il s'est pris au jeu chemin faisant ou il avait l'idée de partir très longtemps ?
Ça, on ne le sait pas, mais dans le récit qu'il nous livre, on sent un plaisir très net à voyager. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout froid aux yeux, qui aime fondamentalement cette instabilité qu'est le voyage. C'est peut-être aussi ce qui l'a rendu célèbre. Il fait ce voyage en quête de science, il visite des lieux saints, des tombeaux, mais il y prend également du plaisir et il est sans cesse en mouvement et sans cesse en train de repartir pour d'autres horizons. Il va rester 5 ans dans le Proche-Orient, au cœur de l'islam, mais ensuite il part en Inde où il reste 8 ans, 12 ans tout si on compte son deuxième voyage en Inde du Sud, donc c'est bien au-delà de la simple entreprise de découverte. Et il va par la suite, à l'issue de ses 25 ans, rentrer dans son Maghreb natal, y rester quelques mois, repartir en Al-Andalus, l'Espagne musulmane, puis enfin visiter le pays des Noirs, Belad al-Soudan, l'Empire du Mali. Et ensuite, il se fixera définitivement au Maroc, où il dictera ses mémoires, ce qui nous permet d'avoir ce récit, cette rihla.
Ah, ce n'est pas lui le scripteur de ses mémoires?
Alors, il a un rapport assez ambigu, assez compliqué, avec un secrétaire andalou qui s'appelle Ibn Juzayi et qui prend sous sa dictée les notes, les souvenirs d'Ibn Battuta, qui les met en forme. C'est un secrétaire andalou, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans la maîtrise de la langue arabe et de la culture islamique. Et ce récit de voyage devient un ouvrage qui va prendre place dans la bibliothèque royale du sultan Mérinide. Et le truchement du secrétaire andalou est tout à fait nécessaire pour faire de ce voyage un livre.
Le récit de voyage, d'ailleurs, c'est un véritable genre littéraire à l'époque dans le monde arabo-musulman.
C'est un genre littéraire.
La rihla.
Oui, c'est la rihla. C'est effectivement la consignation des souvenirs que l'on a lors d'un voyage et de ce voyage essentiel qui est celui qui mène à la Mecque pour le pèlerinage. Nous avons l'Andalou Ibn Jubayr au XIIe siècle qui lui a aussi donné ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que les Occidentaux du monde islamique, maghrébins, andalous, entreprennent très souvent ce voyage. Et ensuite, consigner ses souvenirs, c'est montrer qu'on est allé en Orient, qu'on y a écouté les plus grands maîtres, qu'on a visité les tombeaux et qu'on s'est d'une certaine façon ressourcé au cœur même de l'islam. Syrie, Irak, Égypte, Arabie. Donc ça permet aussi de faire acte de ces lettres de noblesse. Mais Ibn Battuta va bien au-delà de ce voyage uniquement au Proche-Orient, puisque justement il consigne ensuite ses souvenirs d'Inde, des Maldives, de Chine, de Ceylan, c'est-à-dire du Sri Lanka. Et il explique que c'est un livre de merveilles, de savants et de rois. Il y décrit aussi les pouvoirs et pas uniquement les lieux saints ou les pieux ascètes qu'il a pu visiter.
Alors par rapport à son contemporain Marco Polo, c'est très différent?
C'est différent, bien évidemment, dans la forme. Beaucoup ont insisté sur les points communs entre les deux œuvres. La différence, c'est que Marco Polo ne se prétend pas clair, alors qu'Ibn Battuta est un lettré. Ibn Battuta est dans le cadre d'un voyage de science, d'un voyage en quête de science. Et donc, c'est relativement différent. On a pu pointer aussi un certain nombre de points communs sur, notamment, leur relation de la visite de la Chine, visite qui est assez hypothétique. Il semble aller de soi que Ibn Battuta n'est pas allé tout au bout de la Chine. En tout cas, il n'est pas allé jusqu'à Pékin. Peut-être a-t-il simplement visité une partie des villes de Chine. Donc il y a aussi parfois les mêmes incertitudes qu'il y a autour du voyage de Marco Polo. Marco Polo qui dicte aussi son devisement du monde.
Et l'un et l'autre trouvent de l'emploi chemin faisant auprès des puissants qu'ils rencontrent.
Alors c'est le but d'Ibn Battuta très clairement, puisque il va en Inde, qui est un petit peu, et je reprends un terme de Gabriel Martinez Gros qui avait fait un article sur Ibn Battuta, l'islam trouve là son Amérique, c'est-à-dire une terre de butin, de richesse, un pays de cocagne, une terre de djihad également. Et la rihla résonne en permanence des demandes réitérées d'argent d'Ibn Battuta auprès notamment du sultan de Delhi, qui est effectivement extrêmement riche.
بالذي أسكر من عاقل ما كل كأس تحتسي وحباب.
Voilà, alors nous allons suivre le parcours d'Ibn Battuta en compagnie de Jordi Savall en musique pour cette avant-première du spectacle qui va être bientôt donné à Paris à la Philharmonie. Donc ça se passe au cœur du désert et c'est le thème Ibn Battuta donc d'un double CD qui est à venir. C'est un peu une avant-première pour nous aussi, ce double CD d'ailleurs qui ne paraîtra probablement que fin 2016. On entend Driss El Maloumi et la Syrie. Waed Bouhassoun, c'est un chant soufi d'Al-Andalus, justement, Al-Andalus qui vous est cher. Nous partons donc dans le sillage du voyageur arabe Ibn Battuta.
On est dans les Émirats arabes, en train de faire une tournée. Aujourd'hui, on est à Laïn. Et hier, on était dans le milieu du désert, à Nanantra. On a eu le privilège de faire ces musiques dans des lieux qui sont très inspirants et qui nous apportent aussi une dimension à la fois spirituelle et aussi vivante. De jouer ces musiques au milieu du désert, c'est quand même une expérience incroyable.
Alors ce soir, nous sommes à Al Ain, dans l'émirat d'Abu Dhabi. Nous sommes, comme hier soir, sous les étoiles, dans un casque. Une casque, c'est une maison fortifiée. Et vous jouez votre concert Ibn Battuta. Vous avez joué également le concert Orient-Occident. Alors, depuis quelques années, j'en dis ça va, même depuis un certain temps, on va dire maintenant, vous amenez à nous des musiques. Mais ce qu'on ignore parfois en France, c'est que ces musiques où il y a, comme ce soir, des chanteurs turcs, des chanteurs arabes, des musiciens de toutes les traditions orientales, vous allez aussi les montrer dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Et en ce moment, ça crée du lien, et en ce moment, on en a particulièrement besoin.
Je pense que la première chose que nous essayons de faire, c'est de montrer que tout en restant chacun de nous, nous-mêmes, avec les musiques que nous faisons, parce que nous faisons des musiques du Moyen-Âge espagnol, de l'Italie, nous faisons des musiques du Moyen-Âge catalan, des musiques de tradition turque, arménienne, marocaine, égyptienne, d'Afghanistan, etc. Nous essayons de montrer que l'esprit qui reste, c'est un dialogue très sincère, dans lequel chacun apporte son savoir, son histoire, sa manière de faire sentir les émotions. Et c'est comme ça que vous pouvez entendre des moments, un musicien de Madagascar, un Mali, un de Maroc, avec un, mélangé avec un musicien d'Arménie, un musicien d'Istanbul. Et on a l'impression qu'on parle tous la même langue. Et c'est ça qui est formidable. Je pense qu'il y a un grand respect, une grande liberté aussi. Mais cet respect et liberté sont indissociables.
Alors, dans votre histoire, Jordi Savall, on a l'impression que vous démarrez par des musiques, on va dire, de chez vous, catalanes, méditerranéennes, souvent des musiques du Moyen-Âge. Vous nous faites connaître la musique baroque, vous nous révélez même notre musique du grand siècle que nous ignorions, Marin Marais, Sainte-Colombe. Et puis, petit à petit, on a l'impression que le champ de vos investigations s'est étendu en ouvrant la Méditerranée jusqu'à ses rives orientales, en ouvrant jusqu'au Nouveau Monde et en ouvrant maintenant, depuis quelques années, vers l'Afrique.
Oui, c'est une impression qui est certaine. Plus globalement, c'est cette impression. Mais il ne faut pas oublier que déjà, tout à fait au début de nos activités, au même moment que j'ai enregistré les pièces de viol de François Couperin et les suites et les folies d'Espagne de Marin Marais en 1975, au même moment, on jouait et on enregistrait les musiques juives et chrétienne de l'Espagne d'avant l'expulsion des Juifs, au même moment. Espagnol de vin, enregistré pour Emmy, dans les années 75 aussi. Et donc, notre intérêt pour le dialogue interculturel est né déjà par le fait que nous nous sentons partie d'une Espagne riche des trois cultures. Et ça, c'est quelque chose qui était à la base Espagnol. C'est-à-dire cette idée de faire pas seulement la musique chrétienne, mais de faire des recherches et incorporer. On a commencé par la musique qui était la plus proche pour nous, donc qui était la musique des cancioneros, mais aussi la musique séfarade, dont Montserrat aimait beaucoup. Et tout de suite, à peu, on a incorporé les musiques de l'Andalouse, les musiques des autres cultures plus voisines, du Maroc, d'Istanbul, et ça s'est développé avec les projets Orient-Occident, les projets Mare Nostrum, les projets Jérusalem. Et c'est quand vous tissez un tissu d'amitié. Vous trouvez un ami marocain qui est un bon musicien, une autre qui est d'Istanbul, et une autre qui est par hasard, hein, quelquefois, on peut recommander par quelqu'un. Et peu à peu, vous élargissez cette champ d'amitié et de musique, toujours à partir de cette qualité qu'on cherche. Moi, quand je cherche d'inviter des musiciens, ça m'intéresse pas la virtuosité seulement. Ça m'intéresse l'être humain. Donc, parce que je pense que le musicien qui parle nous intéresse si l'homme qui est aussi un homme qui mérite de l'attention et le respect. Et c'est toujours comme ça que j'ai quelquefois renoncé à des virtuoses dans mes relations de concert, surtout dans le baroque, parce que les personnes ne m'intéressaient pas.
Il peut y avoir aussi, entre musiciens, musicologues, des difficultés, et c'est un peu exemplaire des problèmes de relations entre les cultures. J'imagine que dans vos recherches, et je pense par exemple aux musiques où il y a des quarts de ton face à la musique occidentale, il peut y avoir un moment où ça bloque, c'est-à-dire que la négociation s'arrête parce qu'il y en a un des deux qui trouve qu'on est en train d'abâtardir sa musique.
C'est pas la négociation, c'est surtout l'écoute. Vous voyez, quand j'ai commencé à faire ces musiques où il y avait des quarts de temps, la première chose que j'ai fait, c'est écouter et apprendre. Et j'ai dit, bon, c'est ma cam qui consiste en quoi? Et donc, j'ai appris qu'il fallait baisser beaucoup plus le fa dièse, qu'il fallait augmenter le la bémol. Et comme ça, on trouvait chaque fois le caractère qui correspondait. Mais pour ça,
Mais c'est vous qui vous êtes adapté?
Mais c'est-à-dire, je me suis adapté, si j'ai joué une pièce turque, je me suis adapté au style turc. Mais quand les Turcs jouaient avec moi une pièce du Moyen-Âge espagnol, ils s'adaptaient à moi. Donc c'est ça le dialogue. C'est d'écouter et de respecter ce que les autres ont à nous dire. Mais ça doit se faire dans tous les deux sens. Il n'y a pas qu'une seule. Nous avons aussi dans la musique Moyen-Âge l'accord pythagorique qui fait aussi des intervalles qui ne sont pas du tout les mêmes que nous sommes aujourd'hui dans la musique tempérée. Donc il y a surtout un processus dans lequel dans la musique baroque, dans la musique médiévale et renaissance, on est habitué aussi à faire les différences entre un do dièse et un ré bémol, etc. Et ça, c'est beaucoup plus fort encore dans la musique orientale.
Batuta, un passeur entre les mondes. Nous sommes en compagnie de l'historienne Emmanuelle Tixier-Duménil et à Abu Dhabi en compagnie de Jordi Savall.
Pour moi, Ivan Batuta, c'est comme un grand journaliste qui fait des voyages pour savoir comment les gens vivent, comment les gens se comportent et pour transmettre à son roi le savoir de faire que les sociétés fonctionnent bien. Il analyse, il observe, il décrit. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet donc à la fois d'avoir cette vision du monde de l'époque par une témoin exceptionnelle et en même temps d'essayer d'évoquer les musiques qui se faisaient en cette époque-là ou qui, les musiques qui peuvent être considérées comme la continuation parce que bien sûr, il y a beaucoup de musiques de ce 14e siècle dans le monde arabe. Il n'y a pas de traces écrites. Mais il y a des traditions qui se sont prolongées et sur lesquelles nous évoquons donc ces différents moments de l'histoire.
Mais c'est un regard qui, à certains moments, quand on lit le texte, est un regard quand même de supériorité. C'est quand même un musulman convaincu et les autres communautés, il peut les regarder avec sympathie, mais avec un très net sentiment de supériorité de sa culture et de sa religion.
Bien sûr, et dans cette époque-là, les chrétiens étaient convaincus que leur religion était la meilleure, les musulmans que la meilleure, et les juifs, chacun pensait que c'est la religion, et s'appelle la foi. Et c'est ça qui était à l'origine de ces moments de grandeur, mais aussi à l'origine de ces grandes tragédies, de ces grands conflits, parce que quand il y a trois religions si importantes, et ils oublient que tous les trois adorent même Dieu, et commence les conflits, de quelle manière le faire. Donc ça a dégénéré, comme vous le savez, dans des guerres atroces, mais même à l'intérieur du christianisme aussi, on a eu des tragédies incroyables. Mais je pense qu'à part cela, il regarde avec une regard aussi très poétique des fois. Il nous explique, par exemple, Grenade, la beauté de Grenade, les poèmes de la ville. Il nous explique des choses qui font le penser sur quelqu'un aussi qui était sensible à la beauté, qui était sensible à les choses de la vie importantes.
Il décentre notre regard.
Absolument, je pense que c'est important, de la même manière que Marco Polo a un regard aussi personnel, et on sait moins bien si c'était lui ou si c'est le traducteur ou le... Tandis qu'Ibn Battuta, c'est vraiment lui qui porte tout le temps cet regard et qui note avec grande précision toutes ses expériences.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Voilà le regard d'Ibn Battuta sur le monde de son temps. Le chanteur que nous entendons est un chanteur d'Abu Dhabi où a été donnée l'avant-première du spectacle qui sera proposé à la Philharmonie en février. Alors Emmanuel Tixier-Duménil, vous êtes historienne, donc Jordi Savall, lui qui est un homme de paix, de tolérance, fait d'Ibn Battuta son guide en quelque sorte, ou une forme d'icône pour donc nous guider vers un dialogue notamment entre l'islam et les autres religions du livre. Alors, est-ce qu'on n'idéalise pas un petit peu Ibn Battuta ?
On idéalise Ibn Battuta et d'une certaine façon, on projette sur le Moyen-Âge des fantasmes qui sont les nôtres. Le Moyen-Âge n'est pas tolérant. L'autre est le plus souvent un chien d'infidèle, mais qu'on côtoie néanmoins. La tolérance naît des Lumières et elle ne peut pas s'appliquer au Moyen-Âge. Il n'empêche que l'on coexiste et l'islam est d'abord un empire. Et un empire, ça présuppose la diversité des religions, des cultures, des ethnies. Et donc, effectivement, Ibn Battuta fait ses voyages absolument immenses de 120 000 kilomètres et rencontre des peuples, des coutumes tout à fait différents. Il n'empêche, et c'est important de le dire, ce n'est pas un voyage à la découverte de l'autre. Il voyage quasi exclusivement en terre d'islam. Et dans les rares excursions en dehors de ce qu'on appelle le Dar al-Islam, eh bien, il loge chez les musulmans, hein, parce qu'il s'y sent beaucoup plus en sécurité. Néanmoins, l'uniformité entre guillemets religieuse, c'est-à-dire le fait que les gouvernants des terres qu'ils visitent sont musulmans, cette uniformité religieuse n'exclut pas la diversité. Il note notamment les coutumes très étonnantes des Turcs, dont les femmes sont dévoilées et siègent à côté de leurs maris, notamment les femmes de chef. Il a un regard aussi très étonné sur les coutumes en Afrique subsaharienne et sur ces femmes qui, comme aux Maldives d'ailleurs, vont seins nus et en tant que cadis, il essaye en permanence de les vêtir, tout à fait en vain. Donc, il y a une très grande diversité de terres, mais ce sont quasi exclusivement des terres qui sont gouvernées par des souverains musulmans. Donc, en faire une sorte d'apôtre de la découverte de l'autre, c'est peut-être un peu projeter des choses qui ne se trouvent absolument pas dans sa relation de voyage. Jordi Savall parlait de l'élargissement des horizons musicaux, et de cette, là aussi, cette diversité des cultures. Et je pense que c'est exactement ce que fait Ibn Battuta, c'est-à-dire qu'il témoigne aussi de l'immensité de l'islam, d'un islam dont on considère au XIIe, XIIIe siècle, si on ne voit que le versant méditerranéen qui est en repli, parce qu'il y a la reconquista chrétienne, mais qui est en expansion en Anatolie, en Afrique subsaharienne, en Inde, dans ces zones justement qu'Ibn Battuta visite.
Donc c'est un monde déjà globalisé.
Oui, c'est un monde globalisé. C'était ce thème qui était traité à Blois autour de la notion d'empire il y a quelques mois. C'est un monde où les hommes voyagent, où les objets voyagent également. Et Ibn Battuta amène d'une certaine façon la caution de la langue arabe dans le sultanat de Delhi, dans une terre qui est gouvernée par des Turcs. Il n'y rencontre que très peu d'hindous. La culture y est persane et lui, il amène la langue arabe. Et c'est à cet égard qu'il est toujours l'homme de la norme islamique. Il est le cadi et c'est lui aussi quelqu'un qui, et c'est pour ça parfois qu'il est dans une, il est assez rigoureux dans son observation de l'islam, il est le garant de ce que le vieux cœur oriental de l'islam, les terres arabes, apporte au nouveau front d'expansion, et notamment l'Inde.
Et son parcours reflète à la fois la prospérité aussi des comptoirs musulmans, et puis les avancées techniques, parce qu'il voyage beaucoup en bateau, et à cette époque, les navires arabes sont les meilleurs du monde.
Alors, il voyage beaucoup en bateau, il déteste ce mode de parcours, il préfère très nettement les chameaux. Il va même parfois faire une grande boucle, un grand détour pour éviter de prendre la mer. Il va faire plusieurs naufrages, dont un retentissant où il perd les cadeaux que le sultan de Delhi lui avait confié pour l'empereur de Chine, ce qui fait qu'après il n'ose plus du tout rentrer à Delhi. Donc il se méfie aussi beaucoup de la mer. Mais on voit bien sûr la présence des communautés musulmanes, notamment dans l'océan Indien, cette implantation commerciale très forte.
On va reprendre la route de terre et de mer avec Jordi Savall, puisqu'il nous propose de suivre Ibn Battuta, notamment accompagné de ces magnifiques musiciens qui viennent d'un peu partout, en tout cas de l'écoumène, de ce qu'on appelait l'écoumène, et des musiciens avec lesquels il improvise beaucoup. Il y a une grande liberté, ce n'est pas des musiques qui sont écrites. Il aime que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
L'improvisation est la base de toutes les connexions qu'on fait de programme. Et même à l'intérieur des pièces, il y a des éléments d'improvisation qui sont toujours là et qui créent la dynamique qui fait que cette musique monodique prend une dimension extraordinaire parce que cet ensemble d'improvisation et d'ornementation qui se crée donne à la musique une énergie et une vitalité extraordinaire.
Alors vous-même, vous changez un petit peu de peau puisque ce n'est plus le Jordi Savall à la viole de gambe, c'est Jordi Savall au rebab et à la vielle. Donc vous-même, vous jouez des instruments orientaux.
Oui, bien sûr, mais ça c'est depuis le début. J'ai toujours été intéressé dans ces instruments, mais je ne suis pas quelqu'un qui joue un rebab comme les joue le rebab en Afghanistan ou au Maroc. Le rebab que j'ai, c'est un instrument qui vient de Persie, mais que j'ai accordé comme était le rebab du 8e, 9e siècle à la péninsule ibérique, qui était avec des cultures aussi qui venaient de l'Orient. Donc mes instruments sont des instruments médiévaux, plus ou moins liés à l'Orient, parce que c'est de l'Orient qui venait, mais dans lesquels j'essaie de trouver le langage qui correspond à ces instruments à travers de l'accord qui correspond, à travers des indications qu'on sait, mais en m'inspirant toujours sur ces traditions d'improvisation orientale qui sont la base de toute cette merveilleuse richesse musicale.
Donc au fil du temps, le catalan que vous êtes a trouvé l'arabe qui est en lui, le juif qui est en lui, l'africain qui est en lui.
Oui, bien sûr, je pense qu'on est...
Le celte aussi.
Oui, bien sûr, je pense que surtout j'essaye de comprendre l'être humain à travers de leur musique. C'est pour ça que la meilleure façon de comprendre l'esprit arménien, c'est en jouant de la musique d'Arménie. La meilleure façon de comprendre la soif de liberté et d'indépendance de l'Irlande, de l'Écosse, c'est en jouant ces musiques. Et c'est ça qui me permet aussi à la fois d'enrichir mon expérience et en même temps d'enrichir aussi ma fascination et mon envie d'apprendre toujours, parce que c'est la vie a un sens tant qu'on a toujours des choses à apprendre.
Voilà, nous terminons ce parcours autour de la Méditerranée et bien au-delà, dans les pas, dans le sillage d'Ibn Battuta, avec cet anonyme catalan du XIIe siècle, un parcours qu'accompagnait Emmanuel Tixier-Duménil. Merci de nous avoir éclairé ce personnage. Vous êtes historienne, je le rappelle, et vous avez publié notamment « Géographe d'Al-Andalus, de l'inventaire d'un territoire à la construction d'une mémoire » en 2014 aux publications de la Sorbonne. Et puis Jordi Savall et Ibn Battuta, on va les retrouver à Paris, donc le 11 février à la Philharmonie. Alors ça sera la première partie donc du parcours Ibn Battuta. La deuxième partie, donc, qui est en gestation, va être présentée à la Philharmonie à la fin de cette année 2016, le 4 novembre exactement. Et puisque nous regardons du côté du Golfe, eh bien, nous aurons tous une pensée pour Ashraf Fayad, ce poète palestinien qui réside en Arabie Saoudite et qui est actuellement condamné à mort pour athéisme et apostasie. Une condamnation à mort qui est intervenue après une première condamnation à 4 ans de prison et 800 coups de fouet. Comme quoi, la tolérance, l'esprit de tolérance est encore à défendre très très activement aujourd'hui. À Ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures. Les enregistrements ont été réalisés donc dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Nos remerciements à Aline Cramois, à Alice Kabanoff et à Ronald Perlwitz. Prise de son en studio, Bernard Lagnel. À la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque samedi vous est proposé par Marie-Hélène Freisset avec la collaboration de Claude Armand de Castio. Et toujours sur France Culture, vous avez rendez-vous maintenant avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.